Chapitre 7. Une vague de pensées déferle sur moi. Impitoyable. Nous ne sommes pas seuls. Ce sont des extraterrestres. Ce vaisseau est vraiment bizarre. Comment fonctionne-t-il? Vivent-ils ici? S'agit-il de leur histoire? Ai-je déclenché un incident interplanétaire en m'aventurant jusqu'ici? Respire, me dis-je. Bon, une chose à la fois. Et s'il s'agissait plutôt d'un autre vaisseau envoyé par la Terre? Un engin dont je ne me souviens pas. J'ai quand même mis plusieurs jours à me rappeler mon nom. Peut-être la Terre a-t-elle envoyé plusieurs navires de conception différente pour augmenter les chances de réussite au cas où l'un d'entre nous n'arriverait pas à bon port. Peut-être cet engin est-il le « Loué soit Allah » ou le « Bénédiction de Vishnu ». Je jette un regard circulaire sur la salle de contrôle. Il y a des moniteurs et des cadrans pour tout, mais je ne vois pas de radio. Le panneau dédié au AEV est équipé d'un système audio, mais il sert à communiquer avec la personne dans sa combinaison spatiale. Si nous avions envoyé plusieurs vaisseaux, nous aurions sûrement pensé à les équiper de radio pour leur permettre de communiquer. En plus, ce vaisseau dehors, il est complètement dément. Je fais défiler les écrans de navigation jusqu'à trouver la fonction radar. Je l'avais vue plus tôt, mais elle ne m'avait pas semblé intéressante. Le radar est avant tout utile lorsqu'on se trouve à proximité d'un astéroïde ou d'un objet quelconque, pour éviter une collision. Après quelques tentatives infructueuses, je parviens à l'activer. Il repère immédiatement l'autre vaisseau et fait retentir une alarme. Le bruit criard me fait mal aux oreilles. « Oh, doucement !» m'écriai-je en scrutant frénétiquement l'écran jusqu'à trouver le bouton « Désactiver alarme de proximité ». L'alarme se tait. J'étudie l'écran et j'avise une fenêtre contenant beaucoup de données baptisée « Spot A ». S'il y avait eu plusieurs objets, plusieurs fenêtres se seraient sans doute ouvertes. Peu importe. Je ne vois que des séries de chiffres sans signification pour moi. J'aurais préféré un scan isométrique à la Star Trek, ou un truc comme ça. La vélocité du vaisseau est de zéro. Il vole à la même vitesse que moi exactement, ce qui ne peut être une coïncidence. La distance est de 217 mètres. Il s'agit de la distance qui me sépare de la partie la plus proche de ce vaisseau, j'imagine. Ou bien est-ce une moyenne ? Non, c'est sans doute la partie la plus proche, vu que la raison d'être de ce système radar est d'éviter les collisions. En parlant de collisions, 217 mètres, ce n'est rien du tout comparé aux dimensions d'un système solaire. Là encore, il ne peut s'agir d'une coïncidence. Ce navire est là à cause de moi. La largeur angulaire est de 35,44 degrés. Quelques calculs de base devraient m'aider à comprendre. J'affiche l'écran des applications et ouvre la calculatrice. Un objet situé à 217 mètres occupe 35,44 degrés de mon champ de vision. En supposant que le radar voit à 360 degrés, dans le cas contraire ce serait un bien piètre radar, j'entre quelques chiffres dans la calculatrice pour déterminer l'arc-temps et... Le vaisseau mesure 139 mètres de long, environ. Sur un autre moniteur, j'affiche le panneau des astrophages. Le schéma m'indique que le dernier chance mesure 47 mètres de long. Ouais. Le vaisseau extraterrestre est trois fois plus gros que le mien. Aucune chance que la Terre ait envoyé quelque chose de si grand. Et cette silhouette, qu'est-ce que c'est que cette forme ? Je me tourne vers le pétrovascope, qui, dans ce cas précis, fonctionne comme une simple caméra en mode lumière visible. Le centre du navire a le profil d'un diamant, d'un losange. Je suppose que c'est un octaèdre, en vérité. On dirait qu'il a 8 faces triangulaires. Cette partie seule est aussi grosse que mon vaisseau. Le diamant est relié par 3 épaisses barres, je ne vois pas comment les appeler autrement, à une large base trapézoïdale, L'arrière du vaisseau, peut-être. À l'avant du diamant, j'avise une mince tige. À ce stade, j'utilise des termes au hasard, dotée de 4 panneaux parallèles à l'axe principal du navire. Des panneaux solaires ? La tige continue et se termine par une coiffe en forme de pyramide. Toutes les portions de la coque sont plates. Même les tiges ont des faces plates. Pourquoi ? Ces panneaux plats sont une très mauvaise idée. J'ignore qui a construit ce truc, mais je suppose qu'ils ont besoin d'une atmosphère quelconque à l'intérieur. Et de grands panneaux plats sont vraiment nuls quand il s'agit de retenir une atmosphère. Peut-être est-ce seulement une sonde ? Peut-être n'y a-t-il pas d'atmosphère à l'intérieur parce que l'engin n'abrite pas de passagers vivants ? Peut-être s'agit-il d'un artefact extraterrestre, pas d'un vaisseau habité ? Cela reste néanmoins le moment le plus intense de l'histoire de l'humanité. Il se propulse donc grâce aux astrophages. Ce que j'ai vu tout à l'heure était bien une lueur de la fréquence exacte de Petrova. Je trouve intéressant qu'ils utilisent le même moyen de propulsion que nous. Sachant qu'il n'y a pas meilleur médium de stockage énergétique, ce n'est guère étonnant. Lorsque des marins européens ont croisé des marins asiatiques pour la première fois, personne ne s'est étonné que l'autre utilise des voiles. Reste la question primordiale du pourquoi. Une entité, un ordinateur ou un équipage, a décidé de se rapprocher de mon vaisseau. Mais comment pouvait-elle savoir que j'étais là ? De la même manière que j'ai su qu'elle était là, sans doute. Grâce à la quantité gigantesque d'air produite par mes moteurs. L'arrière de mon vaisseau pointant vers Tau Ceti, je braquais une lampe torche de 540 billions de watts dans la direction de cet engin. Selon l'endroit où il se trouvait à ce moment-là, j'ai pu apparaître sous la forme d'une source lumineuse plus puissante que Tau Ceti. Enfin, sur la fréquence de Petrova. J'ouvre l'écran des moteurs tournants et je trouve un bouton de contrôle manuel. Lorsque j'appuie dessus, un voyant d'alerte s'allume et un message s'affiche. Le contrôle manuel n'est recommandé qu'en cas d'urgence. Êtes-vous sûr de vouloir activer le contrôle manuel ? Je tapote sur oui. Un second message s'affiche. Seconde confirmation. Tapez OUI pour confirmer l'activation du contrôle manuel. Je grogne et je tape OUI. Le moniteur accepte enfin d'afficher l'écran du mode contrôle manuel. Il est un peu effrayant, non pas par sa complexité, mais par sa simplicité. Il y a 3 curseurs. Moteur 1, moteur 2 et moteur 3. Pour l'instant, ils sont à 0. Au sommet de chaque curseur, je lis 10 puissance 7 N. N pour Newton, j'imagine. C'est une unité de mesure de force. Si je poussais les 3 curseurs au maximum, j'obtiendrais 30 millions de newtons. C'est à peu près 60 fois la poussée des moteurs d'un Boeing 747 au décollage. Les professeurs de sciences savent beaucoup de choses oiseuses. J'avise d'autres curseurs plus petits, groupés sous les termes « lacet », « tangage » et « roulis ». Il doit y avoir de petits moteurs sur les flancs du vaisseau pour ajuster son orientation. Bidouiller ces curseurs-là pourrait effectivement être une très mauvaise idée. Une mauvaise manœuvre, et je risquerais d'imprimer un mouvement de vrille qui disloquerait le vaisseau. Ils ont pensé à cela, évidemment. Au milieu de l'écran, il y a un gros bouton marqué « Annuler rotation ». Bien. Je vérifie une nouvelle fois le Petrovascope. Le spot A n'a pas bougé. Il est à bâbord, un peu devant moi. Je bascule le Petrovascope en mode fréquence de Petrova et l'écran vire presque entièrement au noir. Comme la première fois, je distingue la ligne de Petrova en arrière-plan, occultée par le spot A. Voyons si tu as quelque chose à dire. Le moteur tournant 2 se trouve au milieu du vaisseau, et sa poussée devrait simplement me faire avancer sans modifier mon orientation. Nous verrons bien. Je le fais tourner à 0,1% de sa puissance pendant une seconde, puis je le remets à zéro. Même avec un seul moteur fonctionnant à 1/1000 de sa puissance pendant une seconde, le navire s'ébranle. Le radar m'indique que la vélocité du spot A est de 0,086 mètres seconde. Cette minuscule poussée me fait avancer à 8 cm par seconde. Je me fiche de cela. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre vaisseau. Je scrute le pétrovascope. Une goutte de sueur se détache de mon front et flotte devant moi. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. Soudain, l'arrière du vaisseau s'embrase pendant une seconde, émettant sur la fréquence de Petrova, reproduisant ma manœuvre. Waouh ! J'active et désactive les moteurs plusieurs fois. Trois brèves poussées, une longue, puis une courte. Ce n'est pas un message, je veux simplement voir comment ils vont réagir. Ils étaient préparés cette fois, et dans la seconde qui suit, imitent ma manœuvre. J'en reste bouche bée. Puis je souris, puis je grimace, avant de sourire de nouveau. C'est tellement incroyable! La réaction a été trop rapide pour qu'il puisse s'agir d'une sonde. Si l'engin était commandé à distance, les pilotes devraient se situer à au moins quelques minutes-lumière, et je ne vois rien dans les parages qui auraient pu les abriter. Il y a donc une forme de vie intelligente à bord de ce vaisseau. Je suis à 200 mètres à peine de véritables extraterrestres. Il est vrai que mon vaisseau se propulse grâce à des extraterrestres, mais ceux-là ne sont pas intelligents. Mon Dieu, le grand jour est arrivé, le premier contact. Je suis le gars qui vient d'établir un contact avec des extraterrestres pour la première fois. Le spot A, je continuerai à l'appeler ainsi pour l'instant, active brièvement ses moteurs. Je ne le lâche pas des yeux dans le cas où il faudrait mémoriser une séquence, mais il s'agit d'une simple poussée de faible intensité. Ce n'est pas un message, juste une manœuvre. Je regarde l'écran radar. Comme je m'y attendais, le spot A se positionne à ma hauteur, maintenant une distance de 217 mètres entre nous. Je fais défiler les écrans scientifiques et trouve celui des caméras télescopiques normales. Le pétrovascope est également capable de distinguer la lumière visible, mais la résolution et la clarté du télescope sont bien meilleures. J'aurais dû y penser avant, mais j'étais trop excité pour réfléchir de façon lucide. J'obtiens effectivement une image bien plus nette. La résolution des caméras est phénoménale, car je peux zoomer et dézoomer comme je veux sans perdre en qualité. Ma vue sur le spot A est parfaite. La coque du navire est gris, mouchetée de brun. Les motifs semblent aléatoires et lisses, comme si le peintre n'avait pas suffisamment mélangé ces deux teintes. Je vois quelque chose bouger du coin de l'œil. Un objet d'une forme irrégulière glisse sur un rail le long de la coque. Une tige, terminée par cinq bras articulés. Chacun est doté d'une pince pareille à une main. Jusque-là, je n'avais pas remarqué les fils qui courent sur toute la coque. C'est un robot, un engin commandé à distance. Enfin, je crois. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un petit homme vert, ni une quelconque créature dans une combinaison AEV extraterrestre. Notez que je serais bien incapable de reconnaître l'un comme l'autre. Ouais, je suis à peu près certain qu'il s'agit d'un robot monté sur un rail. Les stations spatiales au-dessus de la Terre en sont pourvues. C'est une manière simple et pratique d'effectuer certaines tâches en extérieur sans avoir à enfiler une combinaison. Le robot glisse sur la coque jusqu'au point de son vaisseau le plus proche du Dernière Chance. Une de ses mains tient un objet cylindrique. J'ai du mal à estimer l'échelle, mais le robot est vraiment minuscule comparé au vaisseau. À vue de nez, je dirais qu'il mesure à peu près ma taille, ou un peu moins. Il s'immobilise, déplie le bras dans ma direction et lâche le cylindre. L'objet se dirige doucement vers moi. Il décrit un mouvement de rotation lent dans le sens de la longueur. Le mouvement n'est pas parfait, mais le lâcher a été bon, souple. Je me tourne vers l'écran radar. La vélocité du spot A est de zéro. Il y a une fenêtre pour un spot B à présent. Elle me montre que le petit cylindre approche à une vélocité de 8,6 cm par seconde. Intéressant. C'est exactement la même vélocité que moi, lorsque j'ai furtivement allumé un moteur de dernière chance pour leur dire bonjour. Cela ne peut être une coïncidence. Ils veulent que j'attrape ce cylindre et me le livrent à une vélocité qu'ils savent confortable pour moi. C'est vraiment sympa de votre part. Ces extraterrestres sont drôlement intelligents. Et amicaux, jusqu'à preuve du contraire. Après tout, ils ont l'air de se donner du mal pour moi. Et puis, s'ils étaient hostiles, que pourrais-je y faire ? Mourir, c'est tout. Je ne suis pas Buck Rogers, juste un scientifique. Remarquez, je pourrais toujours pointer mes moteurs tournants vers leur vaisseau et les mettre à fond pour le vaporiser. Mais vous savez quoi ? Je ne vais pas partir sur cette idée pour l'instant. Quelques calculs rapides m'apprennent que le cylindre mettra plus de 40 minutes à m'atteindre. J'ai donc tout ce temps pour enfiler une combinaison d'AEV, sortir et prendre position sur la coque pour réceptionner la première passe d'un quarterback extraterrestre à un humain. J'ai appris beaucoup de choses sur le SAS lorsque j'ai disposé des corps de mes camarades. Ilyukina aurait adoré ce moment. Elle aurait sauté aux quatre coins de la cabine d'excitation. Yao serait resté calme et stoïque, mais il aurait eu un sourire en coin quand nous aurions eu le dos tourné. Des larmes brouillent ma vue. En l'absence de pesanteur, elles forment une pellicule sur mes yeux. J'ai l'impression de regarder sous l'eau. Je les essuie et les jette de l'autre côté de la salle de contrôle. Je les vois éclater contre la paroi opposée. Je n'ai pas de temps à perdre avec tout cela. J'ai un truc alien à rattraper. Je défais mes sangles et flotte vers le sas. Mon esprit est plein d'idées et de questions. Je me précipite sur un tas de conclusions infondées et contradictoires. Peut-être cette espèce extraterrestre intelligente a-t-elle inventé l'astrophage. Peut-être l'a-t-elle créé génétiquement pour produire du carburant, la manière ultime d'exploiter l'énergie d'une étoile. Peut-être auront-ils une solution à me proposer lorsque je leur exposerai notre problème. À moins qu'ils montent à l'abordage de mon vaisseau pour pondre des œufs dans mon cerveau. On ne peut présager de rien. J'ouvre la porte intérieure du sas et attrape la combinaison. Comment entre-t-on dans ce machin ? Saurais-je au moins l'utiliser ? Je déverrouille la combinaison d'AEV Orlan MKS2 et ouvre la partie postérieure. J'appuie sur un bouton de la ceinture pour la démarrer. Le processus est rapide et le moniteur d'état fixé à la poitrine affiche aussitôt « Tous les systèmes sont fonctionnels ». Apparemment, je sais me servir de tout ce qui se trouve autour de moi. Je suppose que nous avons bénéficié d'une formation intensive. Je sais toutes ces choses comme je maîtrise les sciences physiques. Ces connaissances sont dans mon esprit alors que je ne me rappelle pas les avoir assimilées. La combinaison de fabrication russe est un unique volume pressurisé. Au contraire du modèle américain où l'on enfile le haut puis le bas avant de fixer les gants et le casque, la combinaison Orlan est d'un bloc. On y entre par une trappe située à l'arrière. On entre dedans, on ferme la trappe et c'est terminé. Un peu comme un insecte qui retourne dans son cocon. J'ouvre la combinaison et me glisse dedans. L'absence de pesanteur est très pratique dans ce cas précis. Je ne me débats aucunement avec la tenue. Étrange. Je sais que c'est beaucoup plus facile que les fois précédentes, alors que je ne me rappelle pas les fois précédentes. Je crois bien que le coma n'a pas laissé mon cerveau indemne. Comme le reste a l'air de fonctionner normalement, je me presse. Je mets mes bras et mes jambes dans leur fourreau. La tenue que je porte au quotidien me gêne un peu. Normalement, je suis supposé porter des sous-vêtements spéciaux. Je sais même à quoi ils ressemblent et je connais leurs fonctions. Réguler la température et monitorer mes fonctions vitales. Malheureusement, je n'ai pas le temps de les chercher dans la réserve. J'ai un rendez-vous avec un cylindre. Une fois dans la combinaison, je plaque mon dos contre la paroi et pousse avec mes jambes afin de refermer la trappe arrière. Lorsque le clapet n'est plus qu'à quelques pouces de se sceller, quelques centimètres plutôt vu qu'il s'agit de matériel russe, un voyant vert s'allume sur ma poitrine. Je porte donc ma main gantée à mon torse et appuie sur le bouton d'auto-verrouillage. La trappe se referme avec quelques clics bruyants, surtout le dernier. Mon indicateur d'état devient vert et je constate que je dispose de 7 heures d'autonomie. La pression interne est de 400 hectopascales, soit 40% de la pression atmosphérique terrestre au niveau de la mer. C'est la norme pour une combinaison spatiale. Tout cela ne m'a pris que 5 minutes. Je suis prêt à sortir. Intéressant. Je n'ai pas eu besoin de passer par une phase de décompression. Dans les stations spatiales qui volent au-dessus de la Terre, avant de sortir dans l'espace, les astronautes passent des heures dans un sas à s'acclimater progressivement à la basse pression de la combinaison d'AEV. Il semblerait que la pression du dernière chance tout entier soit de 40%. Excellente idée. La pression dans nos stations spatiales n'est égale à celle de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer que pour permettre à leurs occupants de rentrer à la hâte en cas d'incident majeur. La dernière chance, en revanche, où pourrais-je me réfugier en cas de problème? La basse pression était donc la meilleure option. Elle sollicite moins la coque et permet des AEV plus rapides. Je prends une profonde inspiration, puis expire doucement. J'entends soudain un faible bourdonnement derrière moi. Je sens de l'air frais dans mon dos et sur mes épaules. De l'air conditionné. Cela fait du bien. J'attrape une poignée et me retourne. Je referme la porte intérieure du sas et tourne une poignée pour déclencher la dépressurisation. Une pompe se met en branle. Elle est plus bruyante que je ne l'aurais cru. On aurait dit une moto à l'arrêt. Je garde la main sur le levier. Si je le tourne, j'interromps le processus et provoque une pressurisation. Je surveille le panneau de contrôle sur ma poitrine à l'affût de la moindre anomalie. Si un voyant rouge s'allume, j'annule tout en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Au bout d'une minute, la pompe se calme. Je l'entends de moins en moins, mais c'est probablement à cause de l'air qui s'échappe du sas. Le bruit ne me parvient que par les pieds, en contact avec le sol grâce à des velcros. Cette fois, la pompe s'arrête. Le seul bruit audible est celui des ventilateurs de ma combinaison. Le moniteur de contrôle du sas indique une pression égale à zéro. Une lumière jaune vire au vert. Je peux ouvrir la porte externe, en toute sécurité. J'attrape la poignée. J'hésite. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce vraiment une bonne idée? Je veux tellement récupérer ce cylindre que je fonce tête baissée sans réfléchir. Cela vaut-il vraiment la peine de risquer sa vie? Oui, sans le moindre doute. Certes, mais cela vaut-il la peine de risquer la vie de tous les habitants de la Terre? Si je fais une bêtise et que je meurs, le projet dernière chance aura été vain. Oui, cela en vaut quand même la peine. Je ne sais pas à quoi ressemblent ces extraterrestres, ni ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils comptent me dire, mais ils disposent forcément d'informations. Ces informations, je les veux, même celles éventuelles, que je regretterais de détenir. Je tourne la poignée et j'ouvre la porte. Je découvre le noir infini de l'espace. La lumière de Tau Ceti se réfléchit sur la porte. Je passe la tête dans l'embrasure et je vois l'étoile de mes propres yeux. À cette distance, elle est un peu moins lumineuse que le soleil vu de la Terre. Je vérifie encore une fois que je suis bien attaché, puis je sors. Je me débrouille bien. J'ai dû beaucoup m'entraîner. Peut-être dans une piscine de flottabilité neutre. En tout cas, c'est comme une seconde nature pour moi. Je sors dans l'espace et j'accroche un de mes filins de sécurité au rail qui court sur la coque. Toujours deux filins, et ne jamais détacher les deux à la fois. Ainsi, on ne risque jamais de dériver loin du navire. L'Orlan MKS-2 est peut-être la meilleure combinaison jamais produite, mais elle ne dispose pas du système Safer des combinaisons EMU de la NASA. Le pack Safer possède deux petits moteurs qui permettent à l'astronaute de retourner vers le vaisseau s'il s'est trop éloigné. Toutes ces informations affluent d'un seul coup dans mon esprit. Je suppose que j'ai passé beaucoup de temps à étudier la question. Peut-être suis-je le spécialiste en AEV de l'équipage. Je ne sais pas. Je relève la visière de protection de mon casque et me tourne vers le spot A. J'aurais bien aimé apprendre quelque chose de nouveau en l'examinant à l'œil nu, mais il est trop loin. Le télescope du Dernière Chance m'en offrait une bien meilleure vue. Mais quand même, regarder sans médiation un appareil extraterrestre me fait quelque chose. Je vois scintiller le cylindre. Régulièrement, les extrémités plates de l'objet reflètent les rayons de taux. Les rayons de taux. Je trouve que cela sonne bien. Toutes les étoiles ne sont pas le soleil, après tout. Il me reste 20 bonnes minutes avant que le cylindre arrive. Je l'observe quelque temps pour deviner son point d'arrivée. Je m'accommoderais bien d'avoir un ami à l'intérieur, devant l'écran radar. J'aimerais bien avoir des camarades à bord. Au bout de 5 minutes, le cylindre m'apparaît clairement. Il se dirige vers le milieu du vaisseau. Mes amis extraterrestres ont bien visé. Je progresse sur la coque. Le Dernière Chance est grand. La partie habitable pressurisée n'occupe que la moitié de sa longueur totale, et en dessous, le vaisseau s'évase pour atteindre 3 fois la largeur de la partie supérieure. La majeure partie de ce volume est vide à présent, puisqu'il contenait les astrophages dont j'avais besoin pour faire cette allée simple. La coque est zébrée de rails destinés aux AEV. Filin par filin, rail après rail, je me dirige vers le milieu du vaisseau. Je suis obligé de passer par-dessus un anneau épais. Il enserre l'habitacle et mesure au moins 60 cm d'épaisseur. J'ignore à quoi il sert, mais il doit être lourd. En matière de design de vaisseau spatial, la masse est tout. J'en conclus que l'anneau est important. Je spéculerai sur son utilité plus tard. Je poursuis ma route, un point d'ancrage à la fois, jusqu'à atteindre ce que j'estime être le centre de la coque. Le cylindre se rapproche. J'ajuste légèrement ma position pour l'avoir bien en face de moi. Après une attente interminable, il est presque à ma portée. J'attends. Inutile d'être trop gourmand. Si je le heurte en essayant de l'attraper trop tôt, je risque de l'envoyer au loin. Et je n'aurai aucun moyen de le rattraper. Je n'ai aucune envie de passer pour un imbécile devant des extraterrestres. Car ils doivent être en train de m'observer, de compter mes membres, d'évaluer ma taille, de déterminer quelle partie manger en premier, ce genre de truc. Je laisse le cylindre approcher, encore et encore. Il se déplace à moins 1 km/h. On est loin du boulet de canon. À présent qu'il est tout près, je peux estimer sa taille. Il n'est pas grand du tout. Il a la forme et les dimensions d'une boîte de café. Il est gris clair, avec quelques traces de gris plus foncé ça et là, un peu comme la coque du spot A, en somme. Les couleurs diffèrent un peu, mais les motifs irréguliers sont similaires. Peut-être est-ce un choix esthétique. Peut-être que ce sont des couleurs de saison. Le cylindre arrive dans mes bras et je la grippe avec mes 2 mains. Il possède moins de masse qu'attendu, sans doute est-il creux. C'est une boîte contenant quelque chose que je suis censé voir. Je coince le cylindre sous un bras et me sers de l'autre pour me déplacer. Je me hâte de retourner au sas. C'est idiot. J'en suis conscient. Je n'ai aucune raison de me dépêcher et cela me met en danger. Un mauvais geste et je risque de dériver dans le vide, mais je n'en peux plus d'attendre. J'entre dans le sas et je ferme la porte. Une fois le sas pressurisé, je déverrouille la porte interne et je flotte dans la salle de contrôle, mon précieux cylindre dans les mains. J'ouvre la combinaison Orlan en pensant déjà au test que je vais faire subir à l'objet. À l'étage du dessous, je dispose d'un laboratoire complet. L'odeur me frappe aussitôt. Je me mets à tousser. C'est le cylindre. Il pue. J'arrive à peine à respirer. L'odeur chimique m'est familière. Qu'est-ce que c'est? Du pipi de chat? De l'ammoniac. Oui, c'est de l'ammoniac. D'accord, dis-je dans un souffle. D'accord, d'accord. Maintenant, réfléchis. Mon instinct me crie de sceller de nouveau la combinaison, Mais je m'enfermerai alors dans un volume confiné qui sent déjà le pipi de chat. Mieux vaut laisser le cylindre s'aérer dans un espace plus grand. L'ammoniac n'est pas toxique, en tout cas en petite quantité. Le fait que je sois toujours capable de respirer semble confirmer sa présence en petite quantité. Autrement, mes poumons présenteraient déjà des brûlures caustiques et je serais mort. L'ammoniac sent mauvais, mais je peux m'accommoder de son odeur. J'émerge par l'arrière de la combinaison, tandis que le cylindre flotte au milieu de la salle de contrôle. Prévenu de la puanteur d'ammoniac, je ne la trouve plus si gênante. C'est un peu comme utiliser un détergent dans un espace réduit. Désagréable, mais pas dangereux. J'attrape le cylindre, et il est carrément brûlant. Je glapis et retire mes mains, puis je souffle dessus en les examinant à la recherche de cloques. Non, il n'y a rien. L'objet était chaud, mais pas autant qu'une plaque de cuisson. Le prendre à main nue était une mauvaise idée, une bêtise même. Comme je l'avais tenu plus tôt, je pensais pouvoir récidiver sans réfléchir, sauf que je ne bénéficiais plus de la protection des gants très épais de la combinaison spatiale. Méchant cylindre extraterrestre, carton jaune. Je tire sur ma manche et me couvre la main, puis je tapote l'objet avec mes articulations pour le pousser vers le sas. Lorsqu'il est à l'intérieur, je referme la porte. Je vais le laisser tranquille pour l'instant. Il finira bien par se refroidir et atteindre la température ambiante. En attendant, je préfère ne pas le voir se balader librement dans le vaisseau. Je ne pense pas qu'il y ait dans le sas quelque chose qui puisse être endommagé par la chaleur du cylindre. Quelle était sa température, d'ailleurs ? Comme un idiot, j'ai posé mes deux mains dessus pendant une fraction de seconde. Heureusement, j'ai réagi rapidement, m'épargnant de graves brûlures. J'en conclus que la température était sans doute inférieure à 100 degrés. Je serre et desserre les poings plusieurs fois. Je ne souffre plus, mais le souvenir de la douleur est tenace. D'où venait toute cette chaleur ? Me demandai-je. Le cylindre est resté dans l'espace pendant 40 bonnes minutes. Pendant cette période, il aurait dû perdre de la chaleur via ses rayonnements thermiques. Il devrait être froid. Je me trouve à environ 1 UA de Tau Ceti, et celle-ci brille deux fois moins fort que le Soleil. Je ne pense pas que l'étoile ait beaucoup réchauffé le cylindre. Pas assez pour compenser son refroidissement par les rayonnements thermiques, en tout cas. Soit il contient une source de chaleur, soit il était extrêmement chaud au début de son voyage. Je le découvrirai bientôt. Vu qu'il n'est pas très lourd, le matériau qui le constitue est probablement assez fin. À défaut d'une source de chaleur interne, il se refroidira très vite dans l'air ambiant. L'atmosphère empeste toujours l'ammoniac. Burk ! Je flotte jusqu'au labo. Je ne sais pas par où commencer. Il y aurait tellement de choses à faire. Je devrais peut-être commencer par identifier le matériau qui constitue le cylindre. Une substance inoffensive pour l'équipage du Spot A pourrait, de façon tout à fait inattendue, se révéler mortelle pour moi. Peut-être commencer par vérifier que l'objet n'est pas radioactif. Je flotte jusqu'à la table et pose la main dessus pour me stabiliser. Je me débrouille de mieux en mieux. Je crois me rappeler un documentaire dans lequel on expliquait que certaines personnes s'habituaient très vite à l'absence de pesanteur, tandis que d'autres en souffraient longuement. Il semblerait que j'appartienne à la première catégorie. Quel vénard ! Enfin, tout est relatif. N'oublions pas qu'il s'agit d'une mission suicide, donc... Ce laboratoire est un mystère. Il l'est depuis longtemps. Il a manifestement été prévu pour un travail en pesanteur artificielle. Il y a des tables, des chaises, des supports pour tubes à essai et le reste. Aucun équipement spécifiquement conçu pour la pesanteur. Pas de velcro sur les murs, pas de moniteur pivotant et accessible de tous les côtés. Pas d'optimisation de l'espace. Non, dans ce labo, il y a un sol et un plafond. Le vaisseau est capable d'une belle et longue accélération. Pendant quelques années, il a entretenu une pesanteur d'1,5G. J'imagine cependant que ses concepteurs n'attendaient pas de moi que je décrive des cercles dans l'espace de ce système pour maintenir la pesanteur artificielle du laboratoire. J'examine les équipements en essayant de calmer mes pensées chaotiques. Il y a forcément une explication. Et elle est dans ma mémoire. Le truc consiste à penser à ce que j'ai envie de savoir, sans toutefois presser à l'excès. C'est un peu comme s'endormir. On ne trouve pas le sommeil quand on le cherche trop fort. Il y a tellement de machines dernier cri dans ce labo. Je laisse mon esprit vagabonder, en même temps que mon regard.